Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 14 mars 2024, il y a 749 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, on va parler d'une élection qui n'a rien de démocratique, de Russes qui se battent pour l'Ukraine, d'un président va-t-en-guerre et d'un pape maladroit. Mais avant tout cela, la note vocale de notre reporter Camille Magnard.
Salut Isabelle, on est avec Yacha, on profite d'un petit moment de répit dans une station-service entre deux rendez-vous aujourd'hui.
Ça me donne l'occasion de vous dire qu'en Ukraine, les stations-service OCO en sont à leur troisième campagne de soutien aux forces armées. Quand vous y faites un plein, vous savez qu'une partie de votre paiement sera reversée aux combattants. Cette fois, la chaîne espère récolter 500 millions de hryvnias, environ 12 millions d'euros, pour acheter des pick-up, des drones d'attaque et de reconnaissance. Mais bon, ça n'est pas le sujet dont veut aujourd'hui nous parler Camille.
C'est intéressant parce qu'on sort d'un rendez-vous dans Kiev avec un responsable, un colonel des services de renseignement militaire. On voulait parler avec le renseignement militaire parce que c'est vrai que ces derniers jours, il y a l'élection présidentielle russe qui arrive du 15 au 17. Et notre interlocuteur disait c'est vraiment une entreprise d'illusion que sont en train de monter les Russes avec beaucoup de répression, avec beaucoup de renforcement aussi de la présence militaire dans les territoires occupés pour donner l'impression qu'il va y avoir une élection démocratique alors que c'est tout sauf démocratique. On connaît déjà quasiment le résultat et que ce sera un raz-de-marée. Est-ce qu'on est surpris pour Vladimir Poutine ?
Les Russes comptent avoir 75% des gens sur les territoires occupés ukrainiens qui vont voter pour Poutine. Il a même dit qu'ils vont faire tout leur possible pour avoir 85-90%. C'est un État autoritaire dans la vie démocratique.
Pour les citoyens ukrainiens qui sont là-bas, qui ont été souvent forcés de prendre un passeport russe pour pouvoir continuer à vivre sur ces territoires, ça veut dire des pressions encore plus fortes, ça veut dire des obligations à se rendre au vote sous peine d'avoir des mesures de rétorsion importantes, même des déportations hors du territoire. Donc ce que nous dit ce responsable du renseignement militaire, c'est que les électeurs ukrainiens n'ont pas le choix. Et même un responsable de l'administration ukrainienne dans cette région de Kherson nous disait « On conseille même aux gens qui sont dans ces territoires de participer à l'élection si le fait de ne pas participer, d'affirmer qu'ils refusent, les met en danger, eux et leur famille. » Donc voilà, c'est tout ça qui est en train de se passer là-bas. C'est difficile d'avoir des informations parce que bien sûr, on ne peut pas y être. Et puis, on a très peu de contacts avec des personnes qui y sont. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller parler aux gens du renseignement militaire et aux gens de l'administration locale, parce que eux ont des informateurs et on sent qu'il y a un regain vraiment de tension dans la guerre autour de cette élection russe. Allez, on part à notre prochain rendez-vous. À bientôt, Isabelle.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья.
Dans un message vidéo ce jeudi, Vladimir Poutine s'adresse à ses électeurs, y compris à ceux des régions annexées qu'il appelle Novorossiya, la Nouvelle Russie. Il est essentiel, dit-il, de rappeler notre cohésion et notre unité. Pour le reste, le chef du Kremlin s'apprête à repartir pour un mandat de 6 ans sans avoir inscrit à son agenda le moindre événement de campagne. C'est ce que nous dit Sylvain Tronchet, le correspondant de Radio France à Moscou.
En 2018, on avait beaucoup raillé le service minimum de Vladimir Poutine en campagne. Le président candidat n'avait participé qu'à 2 meetings à quelques jours de l'échéance et encore, il n'avait parlé que 2 minutes à Sébastopol et 3 minutes au stade Loujniki à Moscou. Cette année, il fera encore moins. Aucun meeting de campagne, aucun débat télévisé, ne cherchez pas les affiches sur les murs de Moscou, les militants qui distribuent des tracts, il n'y en a pas. Ne cherchez pas non plus le programme, le candidat Poutine n'en a pas. Il faut se référer au discours devant les deux assemblées il y a 2 semaines où le président avait promis des milliards de roubles de projets, de subventions et de baisses d'impôts. La campagne de Vladimir Poutine se résume à une évidence qu'exprime clairement son clip électoral diffusé à la télévision.
Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность?
Qui assurera le développement? Qui garantira la stabilité? Qui nous unit?
Только в нем.
En qui avez-vous confiance? En lui seul.
Vladimir Poutine serait donc le seul à même de diriger la Russie. Un axiome de la politique russe que personne ne vient contredire, pas même ses trois concurrents qui débattent entre eux à la télévision. Sur les réseaux sociaux, on annonce déjà un meeting au stade Loujniki le 18 mars, le lendemain du premier tour, avec la participation du président Vladimir Poutine.
Il ne fait pas campagne, donc, mais il donne quelques interviews ici ou là, expliquant doctement que l'arsenal nucléaire de la Russie est prêt pour la guerre et plus avancé que celui des États-Unis, ou que des troupes occidentales en Ukraine, ça ne changerait rien à la situation sur le champ de bataille. Le chef du Kremlin accuse aussi Kiev de multiplier ses attaques contre le territoire russe pour perturber le scrutin présidentiel. Des frappes de drones ont en effet eu lieu ce matin encore sur les régions de Belgorod et de Koursk. Mardi, elles ont même été doublées d'une attaque terrestre conduite par des unités de combattants russes pro-Ukraine qui ont largement médiatisé leur incursion dans le village frontalier de Tiotkino.
Ведем бой в Теткино.
Легион Свобода России.
Мы живые, мы устали. Мы с вами. Вместе мы сила.
Слава Украине.
Героям слава. Свобода России.
L'un de ces groupes de volontaires s'appelle la Légion Liberté de la Russie. Elle est intégrée aux forces armées ukrainiennes, mais dispose d'une certaine autonomie. Ses membres sont tous russes et leur porte-parole s'exprime à visage découvert dans des vidéos aux mises en scène plutôt soignées.
Мы приходим не для того, чтобы убить,
Nous ne venons pas
стереть,
pour tuer,
уничтожить,
pour effacer, pour détruire
Мы
ou punir.
Идем. Чтобы освободить вас
Nous venons vous libérer de la pauvreté, de la misère, de l'incertitude, d'une organisation terroriste qui s'est emparée du pouvoir pour donner à vos enfants un avenir normal, civilisé, sans sanctions, sans répression, sans guerre.
Et самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет.
Путин a usurpé le pouvoir pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Des sanctions, une stagnation économique, une guerre sanglante qui a pris la vie ou la santé de plus de 400 000 hommes.
Убитые политические конкуренты,
des opposants assassinés et un isolement total sur la scène
internationale. Nous
sommes russes comme vous et nous ne voulons pas reconnaître comme président un dictateur sanguinaire. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour le conduire de son palace à la prison. La Légion arrive. Attendez-nous.
Ждите нас. Честь имею.
Le discours est un peu fanfaron, ce ne sont pas ces incursions terrestres qui vont faire basculer le conflit, mais elles visent à ouvrir les yeux d'une société russe plus désunie que le Kremlin ne veut le montrer.
Ces attaques n'ont évidemment pas le même impact que les tirs russes, ne serait-ce que par la taille du pays. Mais le but est de montrer à la Russie qu'elle est en guerre et qu'il y a un prix à payer.
L'éditorialiste Pierre Aski, ce 13 mars, sur France Inter.
L'Ukraine a longtemps été réticente à frapper en territoire russe, notamment sur les conseils de ses alliés occidentaux. Mais vu les moyens asymétriques des deux armées, ces réticences tombent. En principe, l'Ukraine n'utilise que des armes qu'elle produit elle-même pour attaquer en territoire russe. Les occidentaux sont pour l'instant catégoriques. Les armes occidentales ne doivent être employées que dans le périmètre de l'Ukraine reconnu internationalement, c'est-à-dire incluant la Crimée et le Donbass occupés par l'armée russe, mais pas au-delà. Au-delà de ces questions sensibles, l'Ukraine peut se féliciter d'avoir fait coup double, gâcher la fête trop bien réglée de Vladimir Poutine et montrer à ses alliés occidentaux qu'elle n'a pas dit son dernier mot.
Les combattants pro-Kiev annoncent d'ailleurs de prochaines attaques. Ils demandent aux civils des villes frontalières côté russe de se mettre à l'abri. Sur le front ukrainien, cette fois, l'armée reconnaît une situation difficile dans l'Est. Mais ailleurs, il semble que l'activité des troupes du Kremlin est largement baissée en intensité.
And the Oscar goes to 20 Days in Mariupol.
En février 2022, une équipe de journalistes ukrainiens de l'Associated Press, AP, se retrouve piégée dans l'enfer de Mariupol assiégé. Ils filment la guerre au plus près des civils et le 10 mars, remportent l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood.
This is the first.
Ceci est le premier.
This is the first Oscar in the Ukrainian history.
Ceci est le premier Oscar de l'histoire de l'Ukraine.
Mstislav Tchernov est le réalisateur. Voix débordée par l'émotion, le poing serré à s'en faire mal sur sa statuette dorée.
And I'm honored.
Et je suis honoré.
But probably I will be the first director.
Mais je serai probablement le premier réalisateur sur cette scène à dire que j'aurais préféré
I wish I've never made this film.
Ne jamais avoir fait ce film.
I wish to be able to exchange this to
J'aimerais pouvoir l'échanger contre le fait que
Russia never attacking Ukraine.
La Russie n'ait jamais attaqué l'Ukraine, jamais occupé nos villes. Que la Russie n'ait pas tué des dizaines de milliers de mes camarades ukrainiens. J'aimerais qu'ils libèrent tous leurs otages, tous les soldats qui protègent leur terre, tous les citoyens qui sont dans leur prison. Mais je ne peux pas changer l'histoire. Je ne peux pas changer le passé. Mais nous sommes tous ensemble. Nous pouvons faire en sorte que les choses reviennent à la normale et que les personnes de Mariupol et ceux qui ont donné leur vie ne soient jamais oubliés. Parce que le cinéma façonne la mémoire et la mémoire façonne l'histoire. Merci à tous. Merci l'Ukraine.
Thanks to Ukraine. Slava Ukraini.
Je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France. Je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes, qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini!
À la tribune de l'Assemblée ce mardi, Gabriel Attal, le Premier ministre, appelle chacun à prendre ses responsabilités. Lors de la consultation non contraignante sur l'aide française à l'Ukraine, le Rassemblement national s'abstient, la France insoumise et les communistes votent contre. Mais après d'intenses débats, les députés finissent par adopter le texte, 372 voix pour, 99 contre. Les sénateurs suivent, 293 pour, 22 contre. L'opposition a beau fustiger les sorties belliqueuses et bellicistes d'Emmanuel Macron. Il ne s'agissait absolument pas d'approuver l'envoi de troupes en Ukraine, mais de se prononcer sur l'accord de sécurité conclu entre Paris et Kiev. Et Claude Guibal nous rappelle ce qu'il y a précisément dans ce texte.
Eh bien, cet accord est tout d'abord le fruit d'une décision prise lors du sommet de l'OTAN à Vilnius. L'été dernier, les membres du G7, rejoints par 25 autres pays, s'étaient engagés à signer chacun un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine en l'absence d'un calendrier d'adhésion à l'OTAN. Pallier un vide, en quelque sorte, une garantie de soutien, et notamment en cas d'agression future. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont été les premières à signer ce type d'accord et Paris s'y est donc engagé aussi sur une durée de 10 ans. Contrairement à la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, l'accord français ne détaille pas la nature des armements que la France s'engage à fournir à l'Ukraine. Il s'agira, on le sait, de chars, de canons, de munitions, de missiles, y compris longue portée, d'une aide accrue à la défense aérienne. Mais la France ne devrait pas, en revanche, livrer à l'Ukraine les Mirage D2000 que celle-ci pourtant réclame, des avions de chasse spécialisés dans les attaques au sol.
En tout cas, Emmanuel Macron semble avoir définitivement changé de costume, fini le temps où il suggérait de ne pas humilier la Russie et se proposait comme médiateur. Il a fini par comprendre que Vladimir Poutine était enfermé dans une logique guerrière, dit son entourage. Le voilà donc du côté des faucons. Selon le journal Le Monde, le chef de l'État aurait même dit le 21 février « De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer mes mecs à Odessa ». Il s'exprime sur le sujet ce soir à la télévision. Paul Barcelone du service politique de France Info.
Mort d'Alexei Navalny, cyberattaque, intimidation autour d'une future visite du chef de l'État à Kiev. C'est l'attitude de la Russie qui a changé, pas le président, affirme l'Élysée, qui ne renie pas pour autant une volonté patiente de dialogue. Le président a été au bout de la recherche d'une solution diplomatique avec Poutine, philosophe un autre proche. Exercice d'autant plus nécessaire qu'Emmanuel Macron a jeté le trouble. Rien ne doit être exclu, disait-il récemment, pas même l'envoi de troupes au sol. Alors à moins de 3 mois des européennes, et après sa victoire symbolique au Parlement, le président s'est gardé le dernier mot.
À rebours du positionnement de plus en plus offensif de la France, le pape François a été beaucoup critiqué cette semaine pour avoir proposé à l'Ukraine, lors d'un entretien à une chaîne de télévision suisse, le courage de hisser le drapeau blanc pour mettre un terme au conflit. Des propos perçus comme un appel à capituler, évidemment rejeté par Kiev, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, appelant l'Église à ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais à quoi précisément fait-il référence? Explication signée Franck Madvon, lundi dans l'émission Un jour dans le monde sur France Inter.
Eh bien, le ministre ukrainien fait référence à la neutralité, voire à la complaisance dont a fait preuve l'Église catholique face au Troisième Reich, le pape Pie XII en particulier. Le Vatican affirme de son côté que le souverain pontife a combattu Hitler dans la discrétion pour être plus efficace. Les dirigeants ukrainiens tranchent donc ce débat et placent l'Église catholique du mauvais côté de l'histoire. À leurs yeux, le pape François commet aujourd'hui les mêmes erreurs depuis le début de la guerre en Ukraine. D'autres propos de l'Argentin les ont ulcérés. François a plusieurs fois avancé l'idée d'une solution négociée. Il a tardé à désigner la Russie comme l'agresseur. Il a aussi montré du doigt les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie. Ce pape est d'abord résolument pacifiste, la vie avant tout. Il ne soutient pas pour autant Moscou. Il dénonce régulièrement le martyr de l'Ukraine. Mais ce volet de son discours est ignoré.
Pour terminer cet épisode, on va retrouver Nadia Pavlova, avocate que vous avez déjà entendue dans ce podcast.
Salut Isabelle, pardon, parfois moi je suis hyper fatiguée, épuisée avec mon travail et il y a des jours de l'injustice totale, comme celui d'aujourd'hui.
Mais du tribunal de Kiev à la Cour suprême, pas une semaine ne passe sans que Nadia se heurte à des juges corrompus ou des procédures irrégulières.
Par exemple, hier, une des juge a été rendu coupable d'avoir pris un pot de vin. Ça, ce sont des choses injustes. La corruption totale, quand tu ne peux pas faire confiance à la justice. Quand les procureurs te rient à ton visage, quand tu dis « je représente la victime », ils te disent « ah, ça je trouve injuste ». Parce que devant le visage de Zelensky et tout son entourage, où il raconte des contes, comment il aime la loi et tout ça, je vois chaque jour, dans les petites situations des Ukrainiens ordinaires, de l'injustice totale.
Mais comme c'est son tempérament, elle s'accroche.
Je vois ça, tu vois, je ne sais pas comment le dire pour que tu me comprennes et pour que ça ne soit pas trop dur, mais je vois comment je perds ma capacité de ressentir les émotions. D'une côté, c'est mal parce que parfois, je ne peux pas me ressentir heureuse. Mais d'autre côté, tu vois, je ne me ressens plus ni le deuil, ni des chagrins. C'est juste que la seule chose que je vois, c'est l'enjeu et il faut que je persiste. Je vois que la guerre nous change et quand tu manques des ressources, ce qui se passe maintenant avec mon pays, ça ne veut pas dire que tu te casses parce que tu manques de quelque chose. Il faut que tu continues et tu trouveras des options.
Pourtant, l'inaction des Occidentaux lui pèse un peu plus chaque jour.
Pour moi, c'est un peu difficile à comprendre qu'est-ce que le monde occidental attend pour livrer l'aide à l'Ukraine. Parce que au cas où l'Ukraine tombe, ça va être un vrai échec pour la sécurité du monde occidental. Je comprends très bien que la guerre ne va pas se finir dans un mois, dans deux mois à venir. Et je ne veux pas gaspiller mon temps en regrettant que ma vie n'est pas telle que je l'aimerais. Oui, j'ai déjà passé un an comme ça au début de la guerre. Maintenant, j'ai déjà accepté la réalité. Donc, chez moi, c'est comme toujours. J'approche la victoire là où je peux. Et donc, je fais tout ce que je peux là où je suis, avec les moyens que j'ai.
Вже й сон твої цілує ноги, спориш сірія за дверми, та заверни мене з дороги, ти хочеш, можеш заверни.
Schmalgozen, ce groupe est né en 2020 sur les bancs de l'Université des Arts du Spectacle à Kiev. Ses performances sont toujours un mélange de musique et de théâtre.
ти б завернула, та немає, ні слів, ні голосу нема. І замалий, і неширокий світ без берега і меж, зночі в ніч притихлим оком вікні дорогу стережеш. Суха та шибка чи волога, у сніголед чи в дощ осіч, але порожня йде дорога з гори під гори, з ночі в ніч. Вже й сон твоїй.
Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été fabriqué grâce à Camille Magnard et Yachar Fazilov, Sylvain Tronchet, Claude Guibal, Pierre Aski, Paul Barcelone, Franck Madvon et Nadia Pavlova. Mise en onde, Marie-Claire Oumabadi. Production, Isabelle Labéry. À jeudi.
Завернула, та немає, ні слів, ні голосу нема.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.